Bon réveil à tous, voici le journal de Clara Le Coq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Plus de 4 millions de foyers modestes vont recevoir à partir d'aujourd'hui une aide exceptionnelle de solidarité. 150 euros minimum, plus 100 euros par enfant de moins de 20 ans. Cela compensera-t-il l'absence de cantine pendant des semaines et la plus grande consommation d'électricité en ces temps de confinement? Pas si sûr, nous dira la Fondation Abbé Pierre en début de journal.
Ils croulent sous le travail mais ne gagnent pas assez. Les internes en médecine dénoncent une situation intolérable. Elle s'est aggravée avec le coronavirus, vous l'entendrez.
Dans cette édition, nous ferons aussi un point nécessaire sur les agissements des groupes djihadistes en ce moment. La fermeture de mosquées et la crise économique nourrissent leur ressentiment.
Et puis nous nous intéresserons à la situation du plus gros distributeur de presse en France. Presstalis risque la liquidation judiciaire partielle aujourd'hui.
Dans un gros quart d'heure, le billet politique, Frédéric Saïs se demandera ce matin si la crise sanitaire va doper ou affaiblir les dirigeants autoritaires. Le versement sera automatique, sans démarche nécessaire. À partir d'aujourd'hui, une aide exceptionnelle de solidarité sera versée à des familles modestes, via la caisse d'allocation familiale, la mutualité agricole ou Pôle emploi. Selon le gouvernement, plus de 4 millions de foyers sont concernés pour une enveloppe totale de 900 millions d'euros. À quoi correspond-elle, Catherine Pétillon ?
150 euros vont être versés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, le RSA, ou de l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi en fin de droit. S'y ajouteront 100 euros de plus par enfant à charge. Par ailleurs, toutes les familles touchant des aides personnelles au logement des APL en avril ou en mai bénéficieront d'une aide de 100 euros par enfant à charge de moins de 20 ans. Le confinement et le ralentissement économique ont déjà provoqué chez les plus pauvres et les plus fragiles à la fois des pertes de revenus et des charges supplémentaires en raison par exemple de l'absence de cantine scolaire ou de la hausse de la consommation d'électricité. Les associations de lutte contre la pauvreté plaidaient donc pour une mesure de ce type depuis des semaines, mais leur satisfaction est matinée de déception devant les limites de cette aide. Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre.
Cette aide, elle est indispensable, donc il faut d'abord saluer le geste. Par contre, elle présente quand même beaucoup de limites, d'insuffisances. D'abord, il y a tout un pan de la population en situation de fragilité qui n'est pas concerné. C'est le cas de ceux, par exemple, qui bénéficient du minimum vieillesse. Les ménages non plus sont concernés par l'AAH, l'allocation adulte handicapé, les jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas le RSA, ça c'est un problème. Ensuite, de notre point de vue, le montant, il est pas suffisant. C'est une seule fois que cette aide va être versée.
Les associations réclament un périmètre de bénéficiaires plus large pour cette aide, un montant de 250 euros et surtout qu'elle soit reconduite.
À propos de la précarité, encore retrouvé sur notre site internet franceculture.fr un papier sur la bombe à retardement du logement ou comment l'appauvrissement des populations modestes pourrait mener à des vagues d'expulsion dans le parc privé et social. La précarité et la solidarité aussi qui en découle, il ne faut pas l'oublier. C'est l'une des conséquences du confinement qui aura duré 8 semaines. Une nouvelle économie sociale et solidaire a vu le jour. Bonjour Sophie Delpont.
Bonjour à tous.
Ravie de vous retrouver Sophie pour le grand reportage de France Culture qui est de retour à l'antenne cette semaine, lui aussi après 8 semaines. Alors Sophie, pour ce reportage qui sera diffusé ce soir, vous avez rencontré pas mal de monde en respectant évidemment les gestes sanitaires. Les initiatives ont été nombreuses pour pallier le manque de matériel et de structures face au coronavirus.
Oui, du jour au lendemain, un peu partout en France, une créativité et un dévouement social extraordinaire, au sens propre du mot, se sont révélés. Dans ce reportage, nous retrouverons Elisabeth, infirmière volontaire de 45 ans, mère de famille, partie du Var. Elle a passé 1 mois et demi dans un service pneumo-covid de Seine-Saint-Denis, logé gratuitement dans un hôtel 4 étoiles. Des soignants combattant en première ligne, bien souvent, trop souvent sans protection suffisante. Alors ce sont des citoyens et même parfois des adolescents qui ont répondu à l'appel à l'aide des hôpitaux sous-équipés. Dans le 13e arrondissement de Paris, nous irons chez Roméo, 14 ans, élève de 3e, rencontré pour la première fois le 8 avril dernier. Il est devenu depuis l'un des symboles de cette nouvelle économie du dévouement individuel pour le collectif. en produisant à la chaîne des visières de protection à partir d'imprimantes 3D, seule dans sa chambre, pour les livrer tous les jours à l'hôpital de son quartier. Nous irons aussi chez le constructeur automobile PSA, reconverti en fabrique de respirateurs. Et plein d'autres initiatives encore, notamment la confection massive de masques en tissu, quartier de la Goutte d'Or à Paris. Notre collègue Anne Fauquemberg nous y emmènera. Cette nouvelle économie sociale et solidaire, cette révolution en actes, est au cœur de notre émission ce soir, autour d'une question centrale. Ce modèle survivra-t-il à la crise du Covid ?
Eh bien, nous les découvrirons avec vous, Sophie. Merci beaucoup. On retrouve le grand reportage à partir de 17h ce soir. Il est réalisé par Jean-François Braun et Annie Brault. Et Daniel Cohen, professeur d'économie à l'ENS, sera présent pour en discuter ensuite. On ne peut pas redémarrer comme s'il ne s'était rien passé. L'Élysée entrouvre la porte pour un futur plan pour l'hôpital. Emmanuel Macron s'est entretenu pendant près de 2 heures hier avec une dizaine de médecins hospitaliers. Il laissera bientôt le ministre de la Santé, Olivier Véran, ouvrir les discussions sur une future réforme. Il était temps, diront beaucoup de professionnels, mobilisés bien avant la crise du coronavirus, il y a plus d'un an. Parmi eux, les internes en médecine. Ils travaillent, selon leur intersyndicale l'ISNI, 58 heures par semaine en moyenne, et ils sont un peu plus essorés, si tant est que ce soit possible, par l'épidémie, Tara Schlegel.
Avec le Covid-19, la situation s'est aggravée, confie Léonard Corti, le secrétaire général de l'ISNI.
Il y a certains internes, notamment les internes d'anesthésie-réanimation, qui ont vraiment vu leur temps de travail exploser. Et ce qu'on a vu vraiment exploser aussi, et ça on essaie de récupérer des données, mais c'est un peu compliqué, c'est le non-respect du repos de sécurité pendant cette période.
Ce repos est normalement obligatoire. Quand l'interne a travaillé un jour, puis enchaîné une garde de nuit, il doit rentrer chez lui. Mais bien souvent...
Il termine sa garde, il est 8h30, 9h le lendemain. Et à ce moment-là, il remonte dans son service et en fait, il se retrouve à travailler encore la matinée ou voire même la journée parce que il a des patients à voir, il a des dossiers à terminer ou alors il y a la consultation d'un de ses chefs qu'il va falloir qu'il fasse parce que son chef est pas disponible. Et donc, du coup, on a des internes qui, par exemple, sortent de l'hôpital après avoir travaillé 36, 37, 40 heures d'affilée.
Et ce n'est pas exceptionnel. 29% des internes déclarent ne pas pouvoir prendre systématiquement ce repos. Ils étaient 20% en 2008, la situation s'aggrave. Depuis janvier, 4 étudiants se sont donné la mort, souligne Justin Bresse, président de l'ISNI.
On est extrêmement inquiets, on est aussi en colère. Il y a eu une mobilisation des internes en décembre, on n'a pas été entendu. Donc on ne peut pas se satisfaire d'effets d'annonce qui au final ne sont jamais appliqués.
Allusion à la prime que vient d'annoncer le gouvernement. Les internes, eux, ont d'autres revendications, qu'on décompte enfin chaque heure qu'ils passent à l'hôpital pour prouver que leurs droits sont bafoués.
Et la prime évoquée à l'instant entre 500 et 1500 euros en fonction des soignants et des régions, cette prime sera versée au mois de juin au plus tard. Ce n'est pas suffisant selon la plupart des professionnels de santé. Il faudrait déjà, disent-ils, payer les heures supplémentaires. Il y aura des vacanciers cet été. Les voyages en métropole et en outre-mer seront possibles au mois de juillet et au mois d'août. Les réservations de trains à la SNCF peuvent commencer dès aujourd'hui. Billets remboursables et échangeables en cas de nouvelles restrictions. Le Premier ministre Édouard Philippe entend ainsi soutenir les professionnels du tourisme avec une enveloppe globale également de 18 milliards d'euros. Les bars et les restaurants pourraient ouvrir début juin en fonction de l'évolution de la situation dans les départements classés verts, évidemment. Qu'en est-il en revanche pour les professionnels français expatriés ? Français donc, mais dont la petite entreprise est étrangère. Ils sont durement touchés par les conséquences économiques du coronavirus et trop peu entendus, selon eux, par le gouvernement. Bertrand Galichet nous en donne quelques exemples.
Propriétaire d'un lodge au sud de Dakar, ce Français quinquagénaire monte la garde lui-même de nuit pour surveiller son hôtel vide. Une affaire lancée l'an dernier, la crise du coronavirus l'a obligé à renvoyer tout le personnel.
Ça fait 2 mois qu'il n'y a absolument rien qui rentre. On se retrouve quand même tous avec des charges à payer quand même. Bon là, c'est sûr qu'il n'y a plus de touristes du tout. Comment on fait ? Là, je survis parce que j'ai eu une aide familiale. On vient de m'envoyer de l'argent. La solution, c'est pas de dire, bah, écoutez, prenez un avion et rentrez chez vous, parce que chez nous, c'est ici.
L'hôtelier regrette que Paris n'aide au Sénégal que les grandes sociétés, en oubliant les petits entrepreneurs français menacés par la faillite. Joël Gariot-Mellam, sénatrice des Français de l'étranger, a déposé sans succès un amendement qui leur aurait permis de bénéficier du fonds de 7,5 milliards d'euros destiné aux plus fragiles.
Il n'y a absolument aucune protection, ne leur reste souvent comme possibilité que de pouvoir rentrer en France, de voir s'effondrer les efforts parfois de toute une vie dans le pays où ils sont acteurs de notre rayonnement et de notre influence.
La sénatrice observe que leur apporter un soutien immédiat coûterait moins cher que des aides sociales à leur retour en France.
Aucun pays ne sera privilégié si Sanofi commercialise un vaccin contre la Covid-19. Le président du conseil d'administration du laboratoire français le précisait encore hier soir après avoir donné l'avantage aux États-Unis. Cela a créé hier une polémique, de nombreux dirigeants et organismes appelant à un accès équitable et universel. Notez par ailleurs qu'aujourd'hui, les ministres des Finances de la zone euro doivent se réunir à Bruxelles pour discuter de la riposte à la crise.
8h12 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le groupe État islamique serait derrière l'attentat perpétré dans un hôpital de Kaboul mardi dernier.
Oui, attentat qui a tué au moins 16 personnes, dont 2 nouveau-nés dans une maternité. Les États-Unis ont en effet déterminé que Daesh a mené ces 2 attaques, car la pandémie liée au coronavirus n'a malheureusement pas éclipsé la menace djihadiste dans le monde. En Afghanistan donc, mais aussi au Sahel et au Proche-Orient, la pandémie est loin d'avoir poussé les terroristes à abandonner leurs armes, bien au contraire, Claude Guibal.
Depuis le début de la pandémie, les groupes djihadistes ont su capitaliser sur la peur provoquée par le Covid-19. Une manifestation de Dieu contre les sociétés païennes expliquait ainsi Daesh à ses partisans dès le mois de janvier. De quoi appuyer l'idéologie apocalyptique des groupes armés qui cherchent à utiliser les conséquences de l'épidémie pour étendre leur influence. Dans la zone sahélienne ou au Proche-Orient, de nombreux pays ont ordonné la fermeture des mosquées pour éviter la propagation du virus. Et cela a évidemment provoqué la fureur des radicaux et c'est cette colère qui nourrit le ressentiment des populations les plus pauvres, encore plus frappées pendant ce mois de Ramadan par l'inflation des prix liée aux pénuries. Et les attaques, elles ne font que se multiplier au Cameroun, au Burkina Faso ou encore sur les bords du lac Tchad où Boko Haram et sa branche dissidente, l'ISWAP, ont étendu leurs offensives. La semaine dernière, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a sonné l'alarme en rappelant que les groupes terroristes exploitaient la situation. Des opérations de la force du G5 Sahel ont en effet été reportées du fait de la fermeture des frontières liées à l'épidémie.
Son compagnon avait semé la terreur en janvier 2015 en région parisienne. La compagne d'Amédie Coulibaly est visée par une nouvelle enquête antiterroriste. Une femme revenant de la zone irako-syrienne affirmait en octobre dernier que Hayat Boumediene, la compagne donc d'Amédie Coulibaly, était en vie et qu'elle se serait échappée d'un camp en octobre dernier. La justice française ouvre donc une enquête. Le parquet de Paris réclame, lui, un procès aux assises pour crime à caractère antisémite à l'encontre des assassins présumés de Myriel Knoll. L'octogénaire juive avait été tué à Paris en mars 2018. C'est devant le Conseil d'État que la question de l'interdiction de célébrer les cultes sera examinée aujourd'hui. À l'origine de ces requêtes en référé, plusieurs associations qui veulent pouvoir célébrer des cultes en France. Elles regrettent que les portes des lieux de culte restent fermées en ce moment, Antoine Marette.
Depuis le 11 mai, de nombreux commerces ont pu rouvrir, comme les salons de coiffure par exemple. Mais le Premier ministre a décidé de maintenir l'interdiction de célébrer des cultes, à l'exception des funérailles, limitées dans ce cas à 20 personnes. C'est ce qui est contesté par le président du Parti chrétien-démocrate. Jean-Frédéric Poisson estime que cela constitue une atteinte aux libertés fondamentales.
Les différentes confessions sont parfaitement capables d'organiser ces cérémonies en parfaite conformité avec les réglementations sanitaires et les contraintes sanitaires qui sont maintenues du fait de l'épidémie. Donc nous avons contesté ce fait pour deux raisons. La première, c'est que la liberté de culte est une liberté fondamentale reconnue par la Constitution et d'ailleurs par la jurisprudence du Conseil d'État. Et deuxièmement, nous considérons que le maintien de cette interdiction de célébrer des offices religieux est discriminatoire, d'abord au titre d'une différence qui est faite entre les différentes formes d'activité humaine que chacun est à même de pouvoir pratiquer, et deuxièmement, en fonction de la géographie, puisque nous avons bien compris, avec la publication des cartes que maintenant la Direction générale de la Santé publie jour par jour, les territoires doivent pouvoir être traités différemment sous le rapport d'un certain nombre d'activités. C'est d'ailleurs exactement le sens de cette carte publiée par le gouvernement.
Autre argument de Jean-Frédéric Poisson, le décret du 11 mai. Il précise notamment que chaque préfet de département peut interdire la tenue de culte, ce qui sous-entend, selon lui, que la liberté de culte redevient principe général et son interdiction une exception. Le Conseil d'État a jugé recevable sa requête en référé. Il va l'examiner cet après-midi. Mais de son côté, la Conférence des évêques de France, qui a réclamé la reprise des cultes, n'a pas pour autant suivi le Parti chrétien-démocrate dans cette procédure.
Merci Antoine Marette. C'est une des conséquences du confinement de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Le nombre de morts sur les routes en France métropolitaine a baissé de plus de 55% en avril, chiffre comparé à l'année dernière, à la même époque. Cela fait 3 jours que les kiosques et les points presse ne reçoivent plus les journaux et les magazines nationaux. 3 jours qu'une grève du puissant syndicat du livre CGT a débuté. Il dénonce en fait un plan de restructuration chez Presstalis. Le principal distributeur de la presse en France joue son avenir cet après-midi devant le tribunal de commerce de Paris. Il pourrait perdre 70% de ses effectifs avec en toile de fond l'avenir de la presse papier, Maxime Tellier.
Presstalis, c'est le géant de la distribution des journaux en France, ex-NMPP, nouvelle messagerie de la presse parisienne. Le groupe distribue la totalité des quotidiens nationaux et les 3/4 des magazines. Mais Presstalis va mal et depuis longtemps, étranglé par une dette colossale en raison de la baisse continue des ventes de journaux en kiosque. Le marché dégringole de 15% chaque année, d'après le président de Presstalis. La cessation de paiement déclarée le 20 avril est donc tout sauf une surprise, même si la situation a pu être aggravée par le confinement. L'unique plan de reprise sur la table est en tout cas douloureux. Les éditeurs des quotidiens nationaux proposent de reprendre un peu plus de la moitié des salariés au siège parisien et sur la plateforme de Bobigny, mais aucun dans les dépôts régionaux, ce qui fait en tout plus de 600 suppressions de postes. Et même là, il n'est pas certain que ce énième plan de sauvetage soit viable, car il n'est pas soutenu par la presse magazine, dont le produit des ventes est indispensable à Presstalis pour survivre. Certains titres tiennent toutefois absolument à sauver le distributeur pour récupérer l'argent de la vente des numéros, plus de 100 millions d'euros actuellement gelés. En attendant, d'autres ont déjà fait le choix de partir à la concurrence vers les MLP, messagerie lyonnaise de presse. C'est le cas par exemple de Society ou encore de l'hebdomadaire Le 1.
Un chapitre des médias encore, notez que le groupe Altice France se sépare du quotidien Libération. Il sera transféré dans une société à but non lucratif, censée garantir l'indépendance du titre. Le soleil s'installe sur une large partie du pays ce vendredi, excepté sur le sud-est où des averses pourraient tourner à l'orage. Ce matin, comptez 12 degrés à Brest, à Lille et à Besançon, 14 à Paris et à Lyon, et puis 19 degrés à Nice, Guillaume.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.